ici Supersonic, le magazine des cultures sonores. Bonsoir à vous. Vous entendez? Vous entendez? Soyons électriques, soyons éclectiques, soyons comme le son partout. Vous écoutez Supersonic, première du genre, première nouvelle émission du samedi 23h sur France Culture. La culture a ses machines, les machines ont leur culture, et elles s'entrechoquent ou s'harmonisent, bip ou claque, vibrent ou ronronnent. Les androïdes que nous sommes ont leurs prothèses augmentées qui ne font pas que compter jusqu'à 0 et 1. Tout ça sonne, tout ça brisse, et ça fait la matière de Supersonic. Bienvenue. Ce soir, dans l'ordre inverse d'entrée en scène, carte blanche, cinéma et son à Claire Maillot, une histoire vraie, de son, derrière le mur, du fond, par Hélène Laurent, scénariste et enseignante, hommage à Bernard Bachet, jeune inventeur-sculpteur disparu à 97 ans cet été, et le trio d'un beau livre numérique, Chloé Delhomme, Sophie Couronne, Franck Dion. Le livre s'appelle « Aliénaré ».
CHMP, Comité des médicaments à usage humain, antidépresseurs, imipraminique, imitriptyline, amoxapine, clomipramine, dosuliépine, doxépine, maprotiline, trimipramine, autres antidépresseurs, inhibiteurs de la recapture, agomélatine, sérotonine, miancérine, duloxétine, nirtazépine, inlaciprane, cyaneptine, venlafaxine, aripiprazole. Est indiqué dans le traitement de la schizophrénie, des épisodes maniaques modérés à sévères, des troubles bipolaires de type 1 et dans la prévention de récidives d'épisodes maniaques chez les patients ayant présenté des épisodes à prédominance maniaque et pour qui les épisodes maniaques ont à usage humain. Les neuroleptiques atypiques, usage humain, indication schizophrénie, état psychotique aigu et chronique, état d'excitation psychomotrice, contre-indication, allergie connue, trouble cardiaque, tachycardie, bradycardie, collapsus, effets secondaires, syndrome malin des neuroleptiques, mise en jeu du pronostic vital, pâleur, hyperthermie, sueur profuse, hypertonie musculaire. Les propriétés des neuroleptiques. Activité antidélirante. Action anti-hallucinatoire. Action anticonfusionnelle. Action désinhibitrice. Création d'un état d'indifférence psychomotrice. Action sédative avec réduction des états d'agitation et sédation. Troubles cardio-circulatoires. Hypotension, troubles du rythme mental. Maladie mentale. Mise en jeu du butyrophénol, dénomination commune internationale, les génériques, thiapride, droperidol, sulpiridol, allopéridol, parfuridol, usage humain, usage humain, les droleptans, maladie mentale. La psychiatrie vit ce qu'elle avait fait, et voici, cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 9e jour. Produit disponible.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci d'être là, Chloé Delhomme, Sophie Couronne, Franck Dion. On vient d'entendre, alors ça pourrait être entendu comme une pièce sonore qui existe en tant que telle, et en même temps c'est un extrait d'un livre, de ce livre numérique qui nous réunit ce soir, Aliénaré, édité par Le Seuil, il faut le dire, livre numérique qu'on trouve sur des tablettes Apple, voilà.
Et les téléphones.
Et les téléphones, voilà, tablettes Apple. Et téléphones. Et donc là, on vient d'entendre, en fait, Chloé Delhomme, un extrait de livre.
Bah oui, exactement.
Dans sa totalité, la voix, le texte, le son.
Oui, et là, on n'a pas la magnifique image.
On n'a pas la magnifique image.
Mais oui, c'est au-delà de la... Enfin, c'est pas exactement de la littérature augmentée, c'est un petit peu plus, je pense.
Plus qu'augmentée.
Bah oui, c'est... c'est de la littérature vivante en 3D, on va dire.
Alors, il y a une histoire, Aliénaré. Oui. Dans un monde, est-ce qu'on peut dire un monde post-apocalyptique?
Oui, on peut dire ça. On est dans des traditions de SF, à la Stalker, à la, tout l'imaginaire qui va, on mange aussi ils mangent aussi leur mort dans cette société sous forme de barres de céréales. Donc, oui, c'est la même chose.
Et la technique est allée très très loin, c'est ça? Mais finalement, le monde ne va pas si bien.
Bah non, justement, peut-être parce que la technique et la psychiatrie vont de pair et l'optimisation, en fait. Une optimisation qui passe pas seulement par quelque chose de l'ordre du cyborg, des logiciels intégrés, mais aussi par une création pharmaceutique qui permet même un chagrin d'amour. Maintenant, on prend une gélule et puis on oublie.
Et donc, dans ce monde-là, il y a une mission qui est donnée aux personnages, c'est ça? Les personnages qu'on suit dans le livre. Et ils doivent détruire...
L'unité centrale.
Alors, dans notre monde, les unités centrales se détruisent toutes seules, souvent. Donc là, leur mission, c'est l'unité centrale du monde, en fait.
Ouais, c'est l'unité centrale, en fait, des fichiers de réorientation, puisque dans cet univers qui finalement peut se passer plutôt en 2080, on n'est vraiment pas dans une temporalité trop délirante. Eh bien, les affectations de la place de chacun dans un univers où la productivité est vraiment devenue centrale, c'est en fonction de ces pathologies. Potentiel aussi qu'on va affecter chacun à sa place dans la société. Et c'est cette unité qui donc du coup fait le tri, c'est la gare de triage qui est à la fois informatique et organique, et c'est ça qu'il faut qu'ils détruisent parce qu'elle devient zinzin, cette petite matrice.
La matrice devient zinzin, et les personnages eux-mêmes sont-ils zinzin?
Certains l'étaient déjà au début, mais ils masquaient. Et le lieu étant très particulier, il va révéler les pathologies de tout le monde.
Et ils ne se connaissent pas, si ?
Sauf deux d'entre eux. Ils se connaissent, certains se connaissent de réputation parce que c'est des scientifiques de haut vol pour la plupart. Et il y a deux des personnages qui ont une histoire il y a très longtemps avant que l'homme est ainsi. Enfin, il s'agit de Cornelius Le Millième et Eloïse Stern, puisqu'on leur a trouvé des jolis noms. Et ils ont été en couple il y a une bonne quinzaine d'années avant que cette femme psychiatre soit à fond dans le conflit d'intérêts et crée le nouveau manuel des troubles mentaux qui permet ce dispatching.
Alors là, voilà pour l'argument, on va dire, l'univers, le pitch. On a entendu, Sophie Couronne, un extrait donc de l'univers, un bout de l'univers sonore que vous avez créé pour cette Aliénaré. Ça a été un travail pour la partie son, on va venir à la partie image évidemment, mais en proximité avec Chloé Delhomme, j'ai parce que Chloé, on s'était déjà vu dans une émission précédente pour parler de création sonore, pour parler de poésie sonore, c'est quelque chose, et la musique, voilà, ça c'est des choses qui vous sont très proches dans votre création. Là, vous avez travaillé en binôme, on peut dire ça?
On ne se dit pas. Non, oui, forcément, on est complètement interdépendants, le texte, l'image et le son. Et même peut-être que moi, je viens en troisième position, puisque... Quoique non, quelquefois c'est moi qui ai envoyé des sons.
Parce qu'on était en train de prétentieusement
inventer quelque chose et on n'avait pas de méthodologie forcément. On l'a trouvé en travaillant. Donc on a fait des allers-retours entre nous trois, entre quelquefois le texte démarrait, quelquefois l'image démarrait, quelquefois le son démarrait. L'un rebondissait sur l'autre. On a laissé des choses en cours de route aussi. On a pas mal taillé aussi dans le lard. On avait beaucoup plus de matériaux. En fait. Je sais, surtout pour toi, Franck, et moi, j'ai des tonnes de choses qu'on n'a pas utilisées. Et donc, c'est difficile de parler de la méthode parce qu'on l'a inventée en même temps qu'on l'a faite. Et donc, oui, on a fait vraiment des allers-retours entre nous trois. Et
j'ai reconnu des voix, non? C'est possible à l'instant?
Oui, bah, c'est nous trois les voix. À part quelques invités, c'est qu'avec des voix humaines. Peut-être Sophie peut expliquer le processus sur le son, c'était bien.
Oui, Sophie Couronne.
Oui, alors, c'est parti du DSM, en fait, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est la base maintenant, depuis à peu près les années 80, de la nouvelle psychiatrie. et dont part plus ou moins Chloé quand même. Hein,
c'est un peu une obsession quand même.
Et chez moi aussi. Oui. Bref, puisque on sait très bien que ce type de psychiatrie est un peu au service d'une idéologie.
Et d'une industrie.
Oui, d'une industrie et d'une idéologie. Tout ça sert cette industrie.
On les salue au passage.
Voilà.
Partout dans le monde, la recherche avance.
Donc, le DSM, qu'est-ce que je disais ?
Le point de départ.
Le point de départ, oui, qui était donc que, avec cette psychiatrie normative, normalisée, etc., il y a de moins en moins besoin d'humains. C'est de plus en plus des machines. On a commencé par avoir des psys qui n'étaient plus des médecins, mais des techniciens qui lisaient les QCM remplis par les patients. Et maintenant, ce sont carrément des ordinateurs qui gèrent tout ça. Donc, j'ai eu l'envie de réintégrer dans cet univers-là justement des voix humaines et de réintégrer le fantôme dans la machine. C'est parti, l'histoire du fantôme dans la machine, je sais pas si j'ai le temps de le raconter, d'un article qu'il y a eu en 98, c'était des universitaires anglais, de l'université de Coventry, qui ont travaillé dans un laboratoire qui avait la réputation d'être hanté. Bien sûr, c'était des scientifiques, donc ils ont ricané, et une fois dans le labo, ils ont été saisis de dépression, ils avaient des hallucinations, ils voyaient des formes grises se déplacer, ils avaient les cheveux qui se hérissaient, ils étaient oppressés, etc. Il y en a même un qui disait « j'ai très très honte, mais je suis terrifié ». Donc ils ont travaillé, ils ont analysé l'air, etc. Ils ont analysé, au bout du compte, le son. Ils ont trouvé une onde stationnaire. Je ne sais pas s'il faut que j'explique ce qu'est une onde stationnaire.
Une onde stationnaire, c'est-à-dire une onde qui ne bouge pas ?
Non, une onde stationnaire, c'est le résultat quand plusieurs ondes, mais de la même fréquence, s'en vont dans différentes directions. Et c'est important parce qu'on va trouver en fait que le fantôme qui était dans ce laboratoire était le ventilateur. Qui envoyait
avec ses pales, ces gens-là,
et voilà, qui générait du 19 Hz, qui est une fréquence très grave et qui n'est pas audible par l'oreille humaine.
Une infrabasse.
Voilà, mais qui par contre quand même a une action.
Ça fait vibrer.
La pression sonore a une action sur notamment sur le néocortex, je crois. Et donc ça trouble énormément la personne qui l'entend. Et donc voilà, en plus tout ça a été amplifié par le dispositif de laboratoire qui avait des gaines d'aération qui faisaient caisse de résonance. Donc en fait il y avait une pression sonore énorme, mais que les oreilles n'entendaient pas. Ce qui fait que ça faisait vibrer les globes oculaires, d'où les problèmes de vision bizarre et d'hallucination, un problème sur la respiration, les cheveux qui se hérissaient, etc. Voilà, et donc ils l'ont appelé le fantôme de la machine. Et en lisant ça, je me suis dit, je vais mettre dans la machine le fantôme d'Antonin Artaud, qui lui avait donc déjà, je crois que c'est 47, pour en finir avec le jugement de Dieu et puis d'autres écrits, avait déjà anticipé la psychiatrie s'emballant pour dominer le monde et au service d'idéologie.
Sachant qu'il l'avait déjà vécu, il en sortait, il anticipait la suite.
Théorisé là-dessus et... Voilà, et donc je me suis dit que j'allais réinjecter dans la machine le fantôme d'Artaud.
Qui s'est enregistré, pour en finir avec le jugement de Dieu, c'est une pièce radiophonique.
C'est une pièce radiophonique. Donc j'ai pris la voix d'Artaud, mais je l'ai sculptée, parce que quand on travaille le son, c'est comme un sculpteur qui prend une boule d'argile, on malaxe, on enlève des bouts, on fait tout ça, voilà. Donc j'ai pris la voix d'Artaud avec des phrases spécifiques, que je pourrais peut-être vous lire parce qu'elles sont vraiment marrantes quand même. Et je les ai pitchées, time-stretchées, morphodées, enfin je les ai martyrisées.
Totalement transformées.
Totalement transformées.
Si on ne le sait pas, on entend peut-être à certains moments au
pas
fond,
du tout.
Même pas, non jamais.
Pas du tout. La voix d'Artaud a servi exclusivement à faire les bruits de machine.
D'accord.
C'est-à-dire les engrenages, les pinces qui s'ouvrent et qui se ferment, les poulies qui coulissent, qui lâchent un dossier qui tombe, etc. Donc la voix d'Artaud ne fait que des bruits de machine.
Les bruits mécaniques. Le fantôme est donc vraiment le son de la machine.
Est dans la machine. Voilà. Et les trois autres voix, ce sont donc nos trois voix à nous, plus une chanteuse, qui n'est pas chanteuse à la base, mais médecin. Je trouvais ça marrant aussi, un médecin qui chante. Voilà.
La voix de la médecine, la voix de la machine.
Voilà. Plus une amie syrienne qui fait une voix en arabe et en espagnol.
Mais c'est vrai que dans Alienare, il y a des chansons.
1, 2, 3, je n'existais pas. 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, je n'existais pas.
Un, deux, trois, il y a un verre. Quatre,
Malaise dans la comptine, on pourrait dire. Dans Aliénare, donc ce livre numérique dont on parle ce soir dans la première partie de Supersonic sur France Culture, avec Chloé Delhomme, Sophie Couronne et Franck Dion. Franck Dion, vous, bah, essentiellement c'est l'image, même si on a compris que eh bien, c'est une création collective, ce livre numérique, ça s'est croisé, sans méthode et tant mieux peut-être, pour inventer justement, inventer cette forme nouvelle qui se cherche, on peut dire ça, le livre numérique se cherche, cherche sa forme, Franck Dion.
Ah oui, complètement. Oui. C'est une espèce d'usine à gaz assez difficilement cernable dans la mesure où le livre numérique emploie quand même des techniques aussi variées que l'image, le son, la lecture,
l'animation.
Et donc là, en l'occurrence, il s'agit plus de cinéma d'animation que de cinéma en live action, mais. C'est vrai que, exactement comme disait Sophie, la méthodologie est très difficile à mettre en place. Donc,
oui, c'était... Au-delà de la méthodologie, on peut parler par exemple de l'univers graphique que vous avez créé, parce que par contre là, il faut trouver des références, les couleurs ou l'absence de couleurs, quelque chose que j'imagine être proche de l'enfermement aussi. Enfin, quelque chose, c'est toutes des choses comme ça qui doivent
être
des mots-clés qui correspondent aux images qu'on va créer pour l'esprit de nos auditeurs. On met quelques images quand même sur le site de Supersonic, mais vous avez travaillé là-dessus justement.
Mais c'était assez simple parce que quand on est venu nous chercher pour faire cet objet, on va dire, j'aime bien l'appeler un objet, il était évident que moi je sais bien faire qu'une seule chose. Donc
c'est bien
j'ai
de savoir.
Un style, voilà. Donc au moins ça, voilà, ça simplifie considérablement la donne pour les gens avec qui je vais travailler. Et donc
vous le qualifiez comment ce style pour qu'on s'imagine? Parce qu'en plus, je vous trouve un peu dur, enfin, je ne sais pas si c'est une critique ou pas, mais vous avez quand même une palette assez variée. On peut aller voir sur votre site, d'ailleurs, ce que vous imaginez. Alors, effectivement, il y a aussi ce style peut-être un peu dark qu'on retrouve dans Aliénare.
Oui. Enfin, disons que ce qui est amusant, c'est que le style d'Aliénare, même sur les teintes, emprunte vraiment à mon dernier film d'animation. Et mon dernier film d'animation a aussi une partie qui se situe dans l'univers psychiatrique. Parce que ça aussi, les deux copines à côté de moi disaient qu'elles étaient très intéressées par ça. Bah, moi aussi, je suis très intéressé par ça, donc on est trois. Et donc, et c'est la raison pour laquelle, quand on s'est rencontré avec Chloé, ça a tout de suite vraiment marché dans ce sens-là, immédiatement. Ça a été évident. Et j'ai conservé du graphisme de mon dernier film, on va dire toute cette partie qui se passe dans l'hôpital psychiatrique, pour un petit peu l'amplifier de manière un petit peu à une sauce science-fiction, pour appuyer l'idée qu'avait eue Chloé quant au scénario original de l'Aliénare. Voilà.
Et est-ce qu'on imagine d'emblée une forme de navigation? Parce que voilà, on est dans un livre numérique. Par moment, il y a des pages, mais des pages sont quasiment sans fin, enfin qui défilent, ouais. Elles qu'on fait défiler. Et en même temps, on en sort, on revient, on se balade. Il y a des images qu'on a en pleine face quasiment. Est-ce qu'on parle de navigation à la place de lecture dans ce type de projet?
Je pense que le terme navigation est plus approprié que le terme lecture, puisque la navigation englobe également l'image et le son. Et il y a quand même une partie interactive. On va dire qu'une lecture ne se fera jamais. Enfin, une personne va lire Aliénare et une autre va le lire différemment. Donc là, oui, on peut vraiment parler, je pense, de navigation. Après, ce qui était très amusant, c'était le moment où, quand on a posé le scénario avec Chloé, on est partis tous les deux dans notre direction. Chloé dans le texte et puis moi dans l'image. Et là, j'ai commencé vraiment à inventer ce domaine sans même donner tout à fait les clés à Chloé. Donc, c'est-à-dire qu'elle-même était paumée dans les images. Et après, ça s'est renforcé quand il y a eu le travail avec Sophie. C'est-à-dire que ça s'est amplifié. Chacun,
c'est encore plus paumé, quoi.
Voilà, chacun. Mais enfin, c'était l'idée quand même. L'idée d'Aliénare, c'est aussi de se perdre.
Aliénare, si on a bien compris, c'est quand même l'histoire d'un groupe, donc un collectif qui va dans une direction sans forcément trop se connaître ni savoir comment ils vont fonctionner. Et il y a un côté miroir par rapport au, finalement à l'écriture et à la fabrication,
oui,
la production du livre, Chloé Delhaut.
Tout à fait. Et puis, pour le lecteur, en fait, il y a une mise en abîme parce qu'il consulte un dossier d'archives au ministère du redressement productif mondial, d'où l'histoire de la navigation, c'est-à-dire qu'il réceptionne des captations mentales, des journaux internes, donc des écritures différentes à la première personne, c'est ce qui se passe dans leur tête.
Mais pas des journaux intimes, des journaux internes.
Internes. Et après, c'est plein de données qu'ils vont consulter dans ce dossier, donc on peut revenir en arrière, etc. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment beaucoup aimé le travail de Franck, et le film en question dont t'as pas donné le titre, c'est Edmond était un âne.
Ah oui, Chloé, une excellente attachée de presse.
qui a un côté comme ça aussi très, très grisé, très kafkaïen aussi, un peu dans ce côté se perd dans un truc, enfin, quoique celui-là c'est pas le plus administratif dans l'univers, mais il y avait, je savais qu'il allait me rendre quelque chose qui serait assez métallique et en même temps pour ce qui est des jardins de perdu, labyrinthique. Il y a de très très belles images dans le parc où on se perd dans du jardin à la française sous la neige, des choses comme ça. Mais on a avancé. Il était évident qu'il ferait pas d'illustratif, sinon c'était juste sans intérêt. Et en même temps, on communiquait beaucoup aussi sur le contenu du scénario et même sur la psychologie des personnages. Enfin, il y a une séquence dans les parce qu'il y a un côté construction un peu parodie de jeux vidéo dans les codes. On commence, cette équipe a une mission, elle va traverser un domaine, donc d'abord l'extérieur, le parc avec ses pièges et
le labyrinthe.
Et voilà, le labyrinthe. Après, rentrer dans le bâtiment centrale, donc l'équivalent du donjon, et pareil, épreuve après épreuve jusqu'au boss final. Et pour ce qui était de la construction des épreuves et aussi de ce que, même la langue des personnages, on a beaucoup communiqué. L'idée de la pharmacie vient de Franck. Sophie, c'est elle qui s'est rendue compte tout de suite que il y a un personnage quand même qui se détache un peu des autres, qui est le premier à prendre la parole, ce fameux Léonard Reason. Et moi, je voulais un G.I. Joe un peu, mais puis politiquement très frontal. Pour l'évolution, pour l'optimisation. Et Sophie très vite m'a dit, oui, mais enfin, il s'exprime de façon beaucoup trop intelligente et châtiée pour un gros bourrin. Et donc, du coup, là, j'ai eu l'idée de lui foutre des logiciels d'optimisation de la langue, entre autres, parce que, effectivement, je pouvais pas.
Pour vous permettre d'écrire.
Voilà, parce que j'allais pas faire écrire Big Jim qui avait pas de cerveau, ça tenait pas. Et puis, bon, pour le scénar lui-même, avec Franck sur la fin, on a beaucoup bossé parce que j'ai. Moi, en fait, c'est quand même. Outre des pièces de théâtre ou des fictions radiophoniques, les trois quarts du temps, je faisais quand même, sur la vingtaine de bouquins, c'est vraiment majoritairement de l'autofiction. Donc la scénarisation n'était pas du tout mon fort, voire même c'est quelque chose que je pratiquais peu.
Donc là, vous avez pris un schéma, en fait, une sorte de schéma connu, celui du jeu vidéo, de la mission, du groupe qui avance.
Voilà, et après, par contre, pour ce qui était de leurs histoires personnelles et trouver leur langue, là, c'était plus transposer ce que je savais déjà faire. Mais c'est un livre de transition pour moi, parce que l'autofiction, là, ça y est, c'est fini. Donc c'était une bonne façon, pas toute seule, justement, de me faire encadrer pour apprendre à scénariser.
Transition vers la forme aussi, parce que on peut regarder la quatrième de couverture de l'iPad, il n'y a pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est aussi une transition vers une... Voilà, il n'y a pas de page, il n'y a pas de...
C'est
quelque chose qui vous travaille quand même, de toute façon,
depuis 2003, où j'avais travaillé sur les Sims, le jeu vidéo que j'avais réinséré, et en performance et sous forme d'un objet papier avec des captures d'écran, je suis un petit peu quand même obsédée par l'idée de bosser un jour dans un jeu vidéo qui serait pas qu'un jeu de PlayStation basique, mais quelque chose qui serait assez proche, finalement, d'Alienare, avec plus d'interactions et des quêtes internes ou des choses comme ça. Et là, grâce au numérique, maintenant, techniquement, on va peut-être pouvoir s'en approcher.
Et ce serait avec un éditeur, vous pensez ?
De toute façon, moi, je vais pas faire un crowdfunding, donc oui.
Je veux dire, dans le sens, c'est vrai qu'on dit éditeur de jeux vidéo aussi.
Ah oui. Je sais pas. Là, c'est un appel au secours. Embauchez-moi. Mais en tout cas, bon. Puis sinon, pour ce qui est de la littérature, papier, le travail de romancière, là, je passe à de la fiction pure maintenant. Donc c'était bien pour changer la boîte à outils, effectivement, d'avoir un objet vraiment complètement nouveau en étant en équipe. C'était bien.
Sophie Couronne, travailler avec quelqu'un qui est aussi une habituée de la performance, par exemple, ou de la projection du texte, enfin, et de chercher et du son, encore une fois, dans plein de sens du terme, ça permet d'avancer vite, de se trouver un langage commun du point de vue du son.
Bien sûr, toute expérience, toute expérimentation, etc., oui, permet d'avancer, permet de s'enrichir, trouver des nouvelles idées, etc.
Et surtout avec quelqu'un, j'imagine, avec des personnes qui aiment plutôt l'expérimentation.
En plus, avec Chloé, on se connaissait quand même depuis un moment avant.
On avait longtemps.
On avait déjà fait deux.
On a fait des performances, on a fait des pièces sonores, tu as fait des adaptations de certains de mes livres pour la radio.
Ça fait quand vous avez adapté le cri du sablier
pour
France Culture.
Voilà, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, je l'ai adapté, j'ai eu la chance que Chloé trouve mon adaptation bien. J'avais fait la musique aussi. Et on s'est rencontrés, et puis après on a travaillé ensemble sur différents projets. Oui.
Donc 10 ans qu'on fait des choses régulièrement ensemble. Oui.
Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait d'être perdu, que les personnages étaient, et que vous, parfois, dans la fabrication, du fait de cette nouvelle forme, et puis d'un travail en commun, vous pouvez être perdu. Une des manières de régler ça a été un moment d'improvisation, je crois, notamment entre vous deux, Sophie Couronne et Chloé Delhomme.
Ah oui, on a fait ce genre de choses. Ouais. C'est-à-dire qu'on a passé quelques nuits blanches dans des états de conscience altérés, on va dire, par le manque de sommeil, bien sûr.
Essentiellement.
Voilà, tout à fait, essentiellement. Et voilà, on discutait, elle me lisait des textes qu'elle venait d'écrire à voix haute, je lui faisais écouter des sons. Je partais pendant qu'elle continuait d'écrire, moi je retrafiquais des sons. Après elle me disait là j'ai plus d'idées, envoie-moi des sons. Moi je lui disais j'ai plus d'idées de sons, dis-moi des choses. Et puis à 8h du matin, on enregistrait des choses qu'après on recoupait, on remontait, et qui nous servaient de base pour, par exemple, les pièces sonores, ou qui quelquefois servaient de base pour embrayer l'écriture. Texte. Et puis Franck écoutait ça et nous renvoyait des trucs. Du coup, les images de Franck me redonnaient d'autres idées. C'était vraiment une interaction.
Vous aviez tout le temps que vous vouliez pour fabriquer tout ça?
Pas vraiment.
Non. Bah, oui, quand Sophie est arrivée, non. Chloé. Mais au début, enfin, c'était compliqué parce qu'on a, c'est le truc technique aussi. Mais ça, Franck, peut-être tu peux plus expliquer.
Oh non, ça m'emmerde de parler technique. Mais non, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la mise en chantier, enfin l'idée originale du projet, entre l'idée originale du projet et puis le fait de vraiment le terminer, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'il y a eu des soucis d'ordre de production, on va dire. Mmh. Mais nous, ça nous a permis tout de même donc de réfléchir, de reconsidérer même le travail qui avait déjà été fait. Et je sais que moi, en ce qui me concerne, au niveau des images et des animations, j'ai reconsidéré les choses. C'est-à-dire que j'ai refait des choses, d'autres choses, sous un angle un peu différent. Et ça a de nouveau alimenté le scénario, l'écriture de Chloé. Et ça a de nouveau alimenté les sons et les recherches sonores de Sophie.
Oui, donc, surtout qu'il a joyeusement tailladé dans les sons. J'en profite pour régler quelques
points. On aurait pas les plantes,
mais comme j'ai tailladé complètement dans mes images, c'est pas grave.
Il y a le contexte qui n'a pas été touché.
Mais c'est beau d'entendre voir aussi comment comprendre comment une œuvre qui est aussi un prototype se met en place. Et on en parle avec vous ce soir. On parle d'Aliénaré dans Supersonic.
J'ai l'impression qu'ils me regardent. L'impression qu'ils vont me manger. Je les ai affinées, toutes ces catégories. L'impression, ils regardent. L'impression, ils vont manger. Toutes ces catégories. Manuel, diagnostic et statistique des troubles mentaux. Désigné par le sigle DSM.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
DSM.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
DSM. Classifie et catégorise des critères, des diagnostics et des recherches statistiques de troubles mentaux spécifiques. C'est comme de la végétation, du lierre grimpant, du lierre qui rampe. Combien de molécules et combien d'affinages entre millepertuis et le témestacrème, la couleur de la graisse est idem au gris cendre. J'ai l'impression qu'ils me regardent, l'impression qu'ils vont me manger. Impression, et ils regardent. Impression, ils mangent. Je les ai affinés, je les ai découverts. Et alors, c'est bien ça, ma question secrète. Sur les bûchers brûlent les sorcières. Les sorcières sur les bûchers brûlent. Leurs yeux sont cernés de lithium. Leurs lèvres bulles de valium. Elles souffrent, les bipolaires, elles souffrent, elles brûlent. Mais elles sont toujours extrêmement bien habillées. C'est fou. Vous avouez, c'est fou. On dirait de la magie.
À l'hôtel, des camisoles.
Le peuple des pyjamas bleus, le noir est une couleur.
Qu'est-ce que ça veut dire?
L'obsidienne est une roche volcanique vitreuse et riche en silice.
Qu'est-ce que ça veut dire?
L'obsidienne. Qu'est-ce que ça veut dire? De couleur grise.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Vert foncé.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Rouge ou noir.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Elle est issue d'une lave acide. C'est comme de la végétation. Du lierre grimpant. Du lierre qui rampe. Combien de molécules et combien d'affinages entre le millepertuis et le témiscrème? La couleur de la graisse est idem au grisandre.
Vous écoutez Supersonique de Thomas Baumgartner sur France Culture.
Je m'appelle Héloïse Stern.
Le pouvoir, c'est ce que tout.
Héloïse Stern, aucun des personnages d'Aliénaré, ce livre numérique édité au Seuil qui est disponible sur l'Apple Store depuis avant-hier. Chloé Delhomme, c'est vous qui jouez Héloïse.
Oui.
Et ça, c'est donc issu d'un des ateliers dont on parlait, là, d'improvisation.
Voilà, exactement.
Ça doit être à 7h du matin.
Voilà.
vous vouliez lire, Sophie Couronne, des extraits justement de texte d'Antonin Artaud.
Oui. Qui ont servi de fantôme pour la Matrice.
Voilà, c'est le fantôme.
Alors, le fantôme de la machine, par exemple, dont vous avez détourné la parole.
Quand on lui demande pourquoi il a écrit cette pièce, il dit c'est pour dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées. J'aime bien ça. Ensuite, j'ai utilisé la phrase aussi qui dit « Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. » Et puis si j'ai le temps, il y en a une plus longue, mais qui résonne vraiment là. J'ai appris hier que les Américains veulent à toute force et par tous les moyens possibles faire et fabriquer des soldats en vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ultérieurement avoir lieu et qui seraient destinées à démontrer par les vertus écrasantes de la force la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine. Parce qu'il faut produire, il faut par tous les moyens de l'activité possible remplacer la nature, partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver à l'inertie humaine un champ majeur où ce sera le règne enfin de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétique où la belle nature vraie n'a que faire et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non et par conséquent plus d'aliments, mais des produits de synthèse à satiété dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère.
Merci d'avoir été avec nous tous les trois pour parler, de présenter Aliénaré, donc cet objet, comme vous disiez tout à l'heure, Franck Dion, objet littéraire, numérique, livre numérique édité au Seuil, donc il est disponible sur l'Apple Store, c'est ça, pour les iPads et les iPhones, et il coûte 4,99€, quand on y réfléchit, quand on voit ce que c'est pas très cher, et donc c'est paru au Seuil avec l'aide du Centre National du Livre, faut peut-être dire ça, voilà. Merci encore à tous les trois, on met évidemment toute une série de liens sur le tout nouveau site de Supersonic sur franceculture.fr. On parlait d'invention avec vous, on parlait de prototype, un inventeur qu'on avait rencontré il y a quelques années. Maintenant, c'était Bernard Bachet, un des rares contemporains qui pouvait affirmer vraiment qu'il avait inventé un instrument de musique et qui était par ailleurs une sculpture aussi, le cristal Bachet. Il avait inventé le cristal Bachet, un instrument qui est entré depuis longtemps maintenant dans l'instrumentarium d'aujourd'hui, en particulier l'instrumentarium pop, mais pas seulement. Bernard Bachet, il l'avait inventé avec son frère François, ce cristal Bachet, une sorte de clavier en cristal qu'on faisait vibrer. Le cristal faisait vibrer des tiges de métal et la vibration était amplifiée par de grands cônes en front de l'instrument, un grand cône en fibre de verre. On va parler de lui ce soir, on va parler même avec lui. On le retrouve, Bernard Bachet. Voilà le son du Cristal Bachet. Bernard Bachet donc est mort cet été, il avait 97 ans. On l'avait rencontré dans sa grande grange atelier dans l'Essonne, donc c'était il y a 3 ans. On avait commencé la conversation par les origines, évidemment.
Ma mère jouait du piano, ma sœur jouait du piano, ma tante jouait du piano. Et puis quand on, vers 1930 environ, un jeune Espagnol, dont le nom m'échappe pour l'instant, qui a été directeur d'ailleurs d'un conservatoire en Belgique, est venu à Paris, il avait 18 ans et il n'avait pas de piano. Alors comme nous avions, nous, un Pleyel qui était assez bon, un quart de queue, et il a dit, bah, viens travailler chez nous. Donc le mercredi, il venait travailler et le mercredi où je couchais juste à côté, j'avais donc tout son... J'écoutais donc toute la musique de l'époque, c'est-à-dire Debussy, Ravel, etc. La musique espagnole, des Falla, etc. Donc j'ai été baigné là-dedans.
Et il y a une chose qui vous a marqué, c'est la musique concrète. C'est Schaeffer.
Alors j'étais très... Oui, après quand j'étais ingénieur dans les Landes, j'en avais qu'un tout petit poste et j'ai écouté les émissions du GRM. Enfin et j'ai écouté la découverte du son enregistré. Et surtout, j'ai été extrêmement fasciné parce que quand on m'a mis au piano vers 10-12 ans, j'avais un professeur de piano dont la seule chose qui l'intéressait, c'était la tenue de la main. Il fallait faire de grands pianistes. Je n'avais pas l'intention d'être un grand pianiste. Et moi, je coulissais et je jouais comme Jane Gould. Et alors, on me remontait régulièrement. Et j'ai donc pris horreur, non pas du piano, mais du solfège. Et alors, j'ai découvert que l'on pouvait aller dans la musique sans passer par le solfège. Enfin, en évitant, si vous voulez, le solfège. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le truc pour les enfants par la suite. Parce que il y avait une convention dans le solfège qui me gênait. Je sais pas quoi, mais c'est comme ça. Et je trouvais que ces sons étaient une ouverture de la musique que je me dis, tiens, enfin quelque chose de nouveau, etc. Voilà.
Ça veut dire que ce qui vous a plu, c'est que la musique concrète invitait à aller vers la musique et vers le son par quoi? Par le ressenti, en fait. C'est ça qui vous a marqué?
Ah, je sais pas. J'étais attiré par ça. D'abord par la recherche, si vous voulez, parce que j'ai un esprit de chercheur en principe. Et puis, vous savez, vous demandez aux artistes de s'expliquer. Ouais. C'est aux psychanalystes de nous expliquer, nous. Après, quand on sera mort, on dira ce qu'on voudra. Mais on est.
Oui, c'est ça.
On est comme on est. Et quand on a une vision de la vie, quand on est attiré par quelque chose et qu'on est passionné par quelque chose, il faut aller jusqu'au bout.
Et vous parlez de vision de la vie, justement. J'ai l'impression que la dimension d'invention, de création, est quelque chose de fondamental dans l'idée, justement, d'inventer de nouveaux instruments. Parce qu'il faut quand même l'avoir, cette idée-là. Il y avait une utopie à la base, il y avait une...
Non, tout ça, c'est venu petit à petit. Ouais. Et mon frère, vous allez me poser encore la question, comment avez-vous eu cette idée-là?
Avez-vous eu cette idée-là?
Voilà, merci. Ça fait 45 ou 60 ans qu'on me la pose.
Bon, vous devez avoir pensé à la réponse, alors.
Oui. Alors, mon frère, qui se baladait en Argentine, et il avait remarqué que c'était bien, quand il voulait se faire inviter, de jouer de la guitare. Donc, il jouait de la guitare. Jouer, c'est un grand mot. Et puis, alors, il a trouvé que pour transporter sa guitare, c'était mieux d'avoir une vessie gonflable et de remplacer la caisse de résonance par une vessie gonflable et un manche qui se démontait. Donc il mettait tout ça dans sa poche ou dans sa valise et il se baladait avec ça. Alors il est revenu à Paris et revenant à Paris, il a commencé à faire un peu du cabaret parce qu'il a rencontré des gens du cabaret. Il est passé à l'Olympia d'ailleurs en vedette américaine à l'époque, il a été très connu. Sous le nom de Félix Barrel, d'ailleurs. Puis, il s'est dit, mais pourquoi je ne ferais pas des instruments de musique, puisqu'il n'y en a pas eu qui avaient été faits depuis le saxophone. Et alors là, il s'est mis dans la cave chez ma mère, et il m'a dit, Bernard, tu me donnes un coup de main. J'ai dit, d'accord. Alors, comme j'étais dans les Landes, et que je m'arrangeais pour avoir une semaine de congé par mois, j'allais donc, une semaine par mois, avec lui, trafiquer dans les Landes, avec des ressorts de sommier, avec toute la ferraille, enfin, tout ce qu'on trouvait. Et on est tombé sur un procédé acoustique qui n'avait pas été étudié jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on est parti avec une idée scientifique, c'est-à-dire une analyse des instruments de musique, c'est-à-dire l'élément vibrant, l'élément excitateur, l'élément diffuseur, et ensuite ce qui va avec, c'est-à-dire le clavier.
Bon. Pour quelqu'un, je vous interromps, mais pour quelqu'un qui n'aimait pas le solfège, vous repartez quand même, ça c'est pas les bases de la musique, mais c'est les bases physiques, on va dire, de la musique, pour le son, voilà.
Ah, moi, je suis fondamentalement attiré par le son. Ouais. La musique aussi, mais la musique, ça vient après le son. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la recherche du son. C'était cette ouverture vers le son.
Donc là, il y a le duo, je sais pas, est-ce qu'il se recrée ou est-ce qu'il se crée ce duo avec votre frère, l'ingénieur et
Ben non, on a joué ensemble quand on était petit, voilà. On jouait au chemin de fer, on jouait aux soldats de plomb et tout, et on a continué à jouer toute notre vie. Et maintenant, on joue encore un peu, si vous voulez. Maintenant, entre 92 et 95 ans, c'est plus pareil. On joue plus tout à fait ensemble.
Bah, faut dire qu'il habite loin aussi.
Il habite en Espagne. Ouais. Bon, ben écoutez, c'est venu comme ça, et ouais. Puis, bon, je me suis passionné par le truc, et on s'est mis dans la cave, et on a donc fait toutes ces expériences. Et alors là, on s'est mis, on a dit, si on fait ce genre de sport, mon frangin a quand même l'esprit rationnel, je pense. Il en a pas l'air, hein. Donc, il a commencé à chercher des livres d'acoustique, on a été dans les bibliothèques, et on a lu tout ce qu'il y a lu au 18e, 19e et 20e, en particulier le Père Boiss du 20e. Et on a refait des expériences, et on a fait un tableau, si vous voulez, de ce qu'on pouvait faire. Et on a fait un espèce de grand tableau de tout ce qui était les possibilités des instruments de musique.
Donc des possibilités de construction.
Pour faire le son. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un truc qui n'était pas utilisé, c'était la tige encastrée dans une pièce plus lourde. C'est-à-dire, on fait passer le son qui est dans une tige métallique et on la fait passer dans une pièce métallique plus lourde.
Alors,
On fait une transformation d'impédance, c'est-à-dire, là, vous avez dans l'air, vous avez une grande vibration avec une grande amplitude et une faible pression, et au moment où la tige est introduite, vous avez une très forte pression qui est de l'ordre de la demi-tonne par centimètre carré et une très faible amplitude. Donc il y a une transformation du son et ça circule dans le son. Au Japon, mon frère a fait un instrument où il y a 6 mètres entre le diffuseur et le clavier. Donc c'est pour montrer, si vous voulez, que le son se transmet dans le métal. Donc on s'est aperçu qu'on faisait des sons très chouettes comme ça. Et donc, ben, on a travaillé le problème, c'est-à-dire on a fait toutes les manipulations possibles et imaginables qu'on peut faire. Donc on a passé 5 ans dans notre cave chez ma mère.
Atomium de Jacques Lasserie, 1958. Bachet, co-inventeur avec son frère François du cristal Bachet, donc. Et là, c'était une rencontre enregistrée en juin 2012, diffusée évidemment sur France Culture. Bernard Bachet va être fêté le samedi 26 septembre à Saint-Michel-sur-Orge, là où il était installé et où il avait installé sa grange-atelier, où il accueillait régulièrement des classes pour leur faire découvrir les richesses du son. Ça va se passer au sein du centre culturel qui porte son nom, le centre culturel Bernard Bachet, avec un concert, une exposition de ses sculptures sonores. Plus d'informations sur saintmichelsurorge.fr et bachet.org. Bachet, c'est B-A-S-C-H-E-T. On a tous des histoires, on en connaît, on en a vécu, des histoires vraies, qu'on n'invente même pas, dont on se souvient et qu'on raconte, pourquoi pas, et des histoires de son, des histoires vraies, où le son est fondamental, on en a, oui on en a, vous en avez entendu l'année dernière, le vendredi soir, évidemment ça va continuer le samedi dans Supersonique. Ce soir c'est Hélène Laurent qui s'y colle, elle est là, figurez-vous.
Il était une fois une voix dans ma salle de bain. L'hiver dernier, une conjonctivite me réveillait chaque nuit. Mes yeux piquaient, brûlaient. Régulièrement, vers 4 heures du matin, tout ensommeillé, je me retrouvais assise sur le carrelage glacé de la salle de bain, à appliquer des compresses imbibées d'eau chaude sur mes paupières. La chaleur m'envahissait, la douleur s'évanouissait peu à peu, et j'entendais alors une voix de femme derrière la cloison. « Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Non, 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 non. » En boucle, elle fredonnait la chanson de Jean Lenoir. Parfois, à partir de « Vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien », elle changeait les paroles. On aurait dit qu'elle réglait ses comptes avec un amoureux, avec la vie. Selon les nuits, je la sentais tour à tour, séduite, furieuse ou nostalgique. Passagère clandestine dans ma salle de bain, j'étais émue par cette voix si proche et si lointaine. Je ne l'entendais jamais chanter la journée. Parfois, après ma douche, le matin, je coupais l'eau et je restais silencieuse, immobile, l'oreille aux aguets, rien. Pareil, quand je surveillais mon fils dans son bain, je plaquais parfois mon oreille contre la cloison, pas un murmure. Dans les escaliers, dans l'ascenseur, dans le hall de mon immeuble, je scrutais mes voisines pour mettre un visage sur cette voix. Mais aucune locataire des chambres de bonne d'à côté, au-dessous ou au-dessus de chez moi, ne me paraissait être ma fredonneuse. À quoi pouvait bien ressembler cette femme? Quel rapport imaginé entre une voix et son corps? Quel lien possible entre une voix avec laquelle on échange deux politesses dans un couloir et une voix qui chante la nuit? Quel regard, quel sourire possède une femme qui exige qu'on lui parle d'amour chaque nuit? Un après-midi, avec mes enfants, j'ai revu Peau d'âne, le film de Demi, avec Jacques Perrin dans le rôle du prince, qui recherche celle qui aura le doigt assez fin pour le glisser dans l'anneau. La nuit qui suivit, après avoir réchauffé mes yeux et écouté une fois de plus mon fantôme, j'ai fini par m'endormir dans la salle de bain et j'ai fait un rêve en blanc et rouge. En costume bouffant, sur son trône de marbre, Jacques Perrin jeune décompresse sur les yeux. Un garde à la porte annonce « La princesse de blablabla ». Cette dernière, en robe à froufrou, entre, fait la révérence, s'approche tout émue, regarde le prince qui ne la voit pas, et chantent avec application le refrain de « Parlez-moi d'amour ». Sur leur trône, les parents du prince, Micheline Prel et Fernand Ledoux, couronnent sur la tête, sont pleins d'espoir. Mais le prince, agacé, interrompt rapidement l'audition. « Non, désolée, chère princesse, vous n'êtes pas celle que je cherche. Chanteuse suivante !»« Moi, je n'ai jamais trouvé ma peau d'âne, ma parleuse d'amour. Mais depuis, quand j'écoute les interprétations de Gréco ou de Patachou, elle me semble froide, tristement professionnelle. »
Toi, tu écoutes Supersonique sur France Culture. Oui, toi aussi. C'est nouveau, c'est le samedi soir à 23h. On te parle d'amour et de fantômes et des petits airs qu'on devine parfois derrière le mur, là-bas. Ça, c'est du Barneville. Carte blanche à suivre, peut-être, on verra. Carte blanche à Claire Maillot pour terminer Supersonique. Carte blanche où il est question d'images qui bougent et du son qui tourne autour. Bonsoir Claire.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
La rue est bloquée là.
C'est bon là.
Allez. Elle est bloquée, c'est sûr.
Ouais, t'inquiète pas.
Ok, alors on y va, tout le monde en place, s'il vous plaît. Allez, on y va. Moteur son.
C'est parti.
Moteur caméra.
Ça tourne.
Scène 6, quatrième.
Prenons comme point de départ une vérité historique. Le cinéma s'est développé parallèlement à l'essor de la ville moderne. De l'arrivée du train à la gare de la Ciotat des Frères Lumière en 1895 au film de la Nouvelle Vague, il a documenté ses évolutions architecturales, urbanistiques, sociologiques. Mais quelle représentation sonore en a-t-il donné? Comment réalisateurs, preneurs de son et monteurs ont-ils relevé le défi de capter un espace défini par le bruit, la nuisance sonore, voire la pollution sonore, c'est selon. Tentons l'expérience. Si on ouvrait la fenêtre de ce studio pour tendre l'oreille à la multitude de sons émis par la rue, qu'entendrait-on? Certainement un mélange complexe de bruits de moteurs, de pas, de travaux, de bribes de conversation, des éclats de rire, que sais-je encore. Et si maintenant on imaginait la même scène, mais transposée au cinéma, que nous feraient entendre les cinéastes? Première réponse exemplaire chez Woody Allen, dont le projet de moyen métrage New York Stories.
Vous désirez autre chose?
Non, ça va, j'ai tout ce qu'il faut.
$2 en tout.
Bien. Voilà. Et vous? Tout va bien?
Ah, mais oui, ça fait très plaisir de vous voir.
Merci.
À bientôt, monsieur. Merci.
Merci. Et dites-moi, qu'est-ce que ce raffut là dehors?
Je n'en sais rien, il est brillant ce quartier.
Deuxième exemple tiré de Blowout de Brian De Palma, filmant Travolta arpentant les rues de Philadelphie dans un rôle d'ingénieur du son. Vous l'aurez compris, on entend des avertisseurs sonores, oui, pour un phénomène que je qualifierais arbitrairement de syndrome du klaxon ou de la sirène. Vous pourriez me rétorquer que la sirène chez Woody Allen, période Big Apple, c'est un peu facile, mais il s'avère que ce tropisme sonore est assez universel. Tenez, encore un exemple, plus subtil cette fois. Rappelez-vous ce plan sublime qui met en scène Scarlett Johansson surplombant Tokyo dans Lost in Translation de Sofia Coppola. Elles sont discrètes, mais ce sont bien des sirènes qui alimentent en arrière-plan ce morceau du groupe Tomib, une des nombreuses séquences musicales chères à la fille de Coppola. Faut-il alors en conclure que l'imagination manque au réalisateur dès lors qu'il faut faire entendre la ville? Pas si sûr. D'abord, l'évidence s'impose. Dans ce chaos sonore, le klaxon, ça claque dans l'air, c'est puissant, ça ressort. C'est un signal clair qui se détache du brouhaha sourd de la ville. C'est sa fonction première. Et puis, n'en déplaise à Marguerite Duras, le cinéma est avant tout un art visuel. L'image prime sur le son. La priorité est donnée au récit, au dialogue entre les personnages. Et un arrière-fond sonore trop présent, ça brouille la compréhension. La prise de son direct est donc souvent remplacée par de la post-synchronisation, à charge pour le monteur son de reconstruire a posteriori l'atmosphère urbaine de la scène. Il pourra piocher dans sa propre collection ou se servir des ambiances saisies par le preneur de son sur le tournage pour plus de réalisme. Souvent d'ailleurs, il utilisera l'avertisseur sonore comme un emblème, une ponctuation entre deux dialogues. Et là, c'est Jean Eustache qui illustre ce procédé dans La maman et la putain.
Je vais revenir. Vous avez des cigarettes ?
Alors, pour vous convaincre définitivement de la pertinence de cette hypothèse, j'ai recueilli d'autres explications auprès du critique de cinéma Michel Chion. Pour lui, faire résonner une sirène ou un klaxon, ça situe bien sûr d'emblée la scène dans la ville, ça signifie la ville, mais ça permet surtout aux spectateurs de se figurer mentalement l'espace grâce à l'effet Doppler. Qu'est-ce que l'effet Doppler ? Pour faire simple, pour une personne immobile, en l'espèce la caméra, le réalisateur, le bruit émis par un véhicule muni d'un avertisseur sonore n'est pas le même quand celui-ci se rapproche ou s'éloigne. Quand la voiture se rapproche, le son paraît plus aigu. Quand elle s'éloigne, le son paraît plus grave. Ainsi, le son strident de la sirène présente l'avantage de se propager dans l'espace, de se répercuter, de trouver une réverbération sur les façades des immeubles et donc de signifier les mouvements dans la ville située hors champ. Le réalisateur complète donc le cadre limité de la caméra par un son panoramique quasi en 3D. Alors bien sûr, vous trouverez toujours des cinéastes épargnés par ce syndrome. Il suffirait de vous replonger dans Playtime de Jacques Tati pour m'opposer quelques arguments. Et c'est heureux parce qu'à l'instar des personnages de la haine de Kassovitz, on a parfois envie de couper le fil du klaxon.
Hey, moi je vous dis que si on fait ça, ça va faire ressonner le klaxon.
Mais non, c'est ça le klaxon, putain, enculé.
Et c'est avec vous, Claire Maillot, qu'on termine le premier numéro de Supersonic. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il fallait voir les yeux d'Hélène Laurent qui entendait du Woody Allen en version française. Bah oui, bah ça existe aussi. Voilà, c'est terminé Supersonic numéro 1. Super, S-U-P-E-R et Sonic, S-O-N-I-C. Merci d'avoir aidé avec nous tout le monde là autour de la table pour la première. Supersonic reçoit vos commentaires sur franceculture.fr où vous réécoutez et podcastez l'émission tout aussi bien. L'équipe, c'est Inès Debrune à la préparation et à la coordination, Véronique Lamandour à la réalisation. Au son ce soir, c'était Stéphane Desmond et là, c'est du Matmos. Dans un instant, vous retrouvez les nuits de France Culture. À samedi prochain et portez-vous bien.